En plein cœur de Saint-Élie-de-Caxton, son studio a été l'hôte des albums de Fred Pellerin, de Tire le Coyote, des projets de Brian Perrault, mais cette fois-ci, c'est sa musique, ses paroles, sa voix qui résonnent jusqu'à nous. Jeannot Bournival, bon matin.
Hey, salut Rosie, comment tu vas?
Ben, je vais très bien. Toi-même, à l'aube de ce beau lancement-là?
Hey, ça va vraiment bien. Là, tu sais, je suis comme empreint d'une forme de douce fébrilité, je dirais.
Tu lances ton album le 24 février avec Vue sur la mer comme amertume, un projet qui s'est concrétisé davantage pendant la pandémie. Je sais que tu écrivais poésie, chansons, mais avant ce temps d'arrêt-là, est-ce que c'était un désir pour toi de faire un projet solo et intime comme ça?
Bien, j'ai toujours fait des projets solo sans que ce soit attaché aux mots. J'ai toujours fait en musique instrumentale, des trucs comme ça, des trucs assez intimes. J'ai toujours été attiré par ça. Là, évidemment que la pandémie, moi, j'ai étonnamment été très, très occupé parce que, étant aussi artisan de la matière audio, tu sais, avec mon studio à Saint-Élie, je devenais des fois une référence vers qui se retourner pour continuer à faire de la musique quand les portes étaient fermées, la mienne restait ouverte. Ce qui fait que j'étais très en mouvement, mais il y avait quand même très peu de voisinage.
Ouais.
Je laissais un temps d'introversion à la poésie. J'ai écrit énormément. Et après ça, ben, c'est certain que ça fait des années que j'ai une passion pour les mots. Puis là, c'est concrétisé. J'en ai suivi un album là, dans le bonheur et la tranquillité de Mont-Saint-Élie.
Et tu as des, mon Dieu, de nombreuses années d'expérience diversifiée, musicien ou derrière la console pour Fred, Tire le Coyote, ton duo Lavabo, comme tu l'as dit, directeur artistique de nombreux projets. Mais cet album-là, solo, est-ce qu'il signifie quelque chose en particulier dans ta vie là, où tu es rendu maintenant?
C'est vraiment spécial. Tu sais, cet album-là, qui s'appelle Avec vue sur la mer, au début, son titre de travail, c'était « Fenêtre à carreaux avec vue sur la mer ».
C'est une toune en
la
soi.
Fenêtre à carreaux. Oui, c'est ça. C'est comme tout le monde m'a conseillé de raccourcir le titre parce qu'il est trop long. Ceci dit, « La fenêtre à carreaux », pour moi, représente la maison ancestrale, c'est la tradition québécoise. La fenêtre par laquelle on regarde l'extérieur, on voit les gens passer sur un chemin de terre battue. Puis quand on veut faire un commentaire, on ouvre la fenêtre, on crie un commentaire. Quand on veut dire « j'aime », on lève le pouce. D'une façon plus traditionnelle que ce qu'on le fait aujourd'hui. Puis après ça, les gens peuvent nous voir aussi par cette fenêtre-là, à la lueur de la lampe, peuvent nous voir, à la pénombre, notre ombre en soirée, pour avoir un regard bienveillant les uns sur les autres. Fait que pour moi, la fenêtre à carreaux, c'est ça. Avec vue sur la mer, ça, c'est cette douce amertume qu'on porte. La mélancolie, c'est un peu une sorte de... Peut-être que je revendique le droit à la mélancolie ou quelque chose de même. Tu sais, ces temps-ci, avec nos Instagram à la police, tu sais, tout le monde a l'air heureux, content. Tout le monde est seulement sur ses beaux jours.
Avec filtre.
Puis, avec filtre. On vit avec filtre. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Tu sais, il y a quelque chose qui nous permet de voir des gens qu'on ne verrait pas, d'avoir des souvenirs. Tu sais, c'est un moteur qui est extraordinaire avec lequel je pense qu'il faut apprendre à vivre et avec lequel on va vivre pour le restant de notre vie. Mais il y a un petit quelque chose de vicieux là-dedans, dans le sens où des fois, quand on regarde trop de ça, on a l'impression que tout le monde est heureux sauf nous, tu sais, parce que dans le parfait bonheur, je considère qu'il y a une part de mélancolie. Il n'y a personne avec qui j'ai une discussion en aide qui me raconte pas un truc triste. Il y a la mort, il y a le cancer, il y a la vie. Puis ça, je parle pas du malheur de la vie, je parle du bonheur de la vie. C'est dans une vie heureuse, c'est empreint de toutes sortes de petits malheurs ou de toutes sortes de journées un peu tristounettes, mélancoliques, perte d'un travail qui finalement nous amène à un plus beau défi, une rupture, une séparation de couple qui finalement nous amène vers plus grand, une maladie qui finalement nous donne un regard sur la vie qui est neuf puis qui nous amène à apprécier encore plus notre vie. Mais tout ça passe par une forme d'acceptation de la mélancolie pour pas avoir l'impression de vivre dans le malheur. T'sais, je considère que ces accros-là à la vie, ces détours-là, ces réflexions-là à la vie, quand sont prises de façon philosophique, font partie du bonheur, en fait. Fait que c'est un petit peu ça, le message de mon affaire. Je me souviens plus si je suis en train de répondre à ta question, Rosie.
Tu en réponds à plusieurs en même temps, mon cher Jeannot.
OK, parfait.
Je sais que tu es un gars qui aime se déstabiliser. Après ce projet solo-là, le processus pour s'assumer de plus en plus en tant qu'artiste, qu'est-ce qui pourrait te déstabiliser ou qui serait bienvenu pour le futur pour toi?
Bien là, évidemment que je joue à des jeux, là, tu sais, j'ai toujours cherché à me mettre un peu en danger, danger étant bien grand mot, mais m'organiser pour avoir le cœur qui bat un peu, pour m'amener cette espèce d'énergie-là créative qui fait que que j'ai envie de retravailler mes trucs artistiques le soir avant de me coucher, tu sais. Puis là, il y a cette apparition-là des mots de plus en plus assumés avec peut-être une façon qui tranquillement se définit de plus en plus. Tu sais, j'ai cette semaine achevé une première version là, de recueil de poésie que j'espère trouver son chemin bientôt. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs comme ça que j'ai envie de porter après ça. J'ai commencé à tenter aussi des expositions photographiques. J'essaie de attacher un peu, en fait. J'ai l'air décousu, mais c'est parce que je le suis profondément.
J'aime ça.
C'est ça qu'il y a dans ma tête. Désolé. Mais je m'amuse à dire que je prévois devenir un artiste. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si j'ai eu plein de parcours, j'ai tâté toutes sortes de poux. Plus jeune, à un moment donné, je pensais devenir un saxophoniste jazz. T'sais. À un moment donné, on m'a nommé réalisateur d'album. Ah, OK, je suis rendu ça. Après ça, on m'a nommé compositeur. Après ça, puis j'ai compris que la nomenclature d'un titre, c'est quelque chose de variable, puis c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. Ceci dit, tous ces titres-là qui ont changé puis qui ont su évoluer tranquillement, ces jeux-là s'additionnent ensemble puis me donnent espoir de devenir un artiste, c'est-à-dire de me permettre simplement. Parce qu'au final, que ce soit avec les mots, avec la musique, j'aime créer un amas, un tas de matière créative, puis sculpter dedans pour arriver à quelque chose de peaufiné, parce que j'adore le travail et le retravail, pour tout ça, pouvoir le présenter. Fait que là, après ça, peu importe c'est laquelle, la forme, j'ai l'impression que tranquillement, mon évolution ou d'évolution, vous saurez me le dire avec du recul, que j'entrevois que probablement à l'aube de la cinquantaine, je deviendrai probablement un artiste. En additionnant tout ça, là, je pense que je vais y arriver. Là. D'ici 5 ans, je pense que ça devrait l'être.
Jeannot Bournival, de mon regard, à travers la fenêtre à carreaux, avec vue sur la mer, tu es officiellement un artiste. Bravo pour ton travail et merci beaucoup pour ton temps surtout.
Ben, merci Rosie, ça me fait tellement plaisir de te parler. Puis j'espère qu'on se parle bien.